Accès libre avec Luc Fortin.
Bon, Danny Machocha qui finalement travaille pour les Alouettes. Ça fait combien de temps? 10 ans à peu près qu'il essaie. À chaque fois, son nom revient toujours. C'est réglé. Alors, on écoutera ça une fois retourné à la maison. Jean-Sébastien Laliberté, bonjour.
Bonjour, j'espère qu'on ne parlera pas de football parce que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus.
Non, mais on va quand même parler de quelque chose qui n'a pas rapport. En m'en venant, j'écoutais mon GPS et je jasais avec le monsieur chauffeur du transport adapté. Avenue Laurier-Est, Avenue Villeneuve, Avenue Marianne, Est-Ouest. Pourtant, 1ère, 2e, 3e, 4e avenue, Nord-Sud. C'est quoi la différence entre une avenue et une rue? Alors, je te donne ça. D'ici la fin de l'émission, il faut que tu règles cette question. Presque pas de bouton à... Bon, tu as 3 téléphones à faire. Quand même. Le gars est payé pour faire 3 téléphones.
Et répondre à des questions de
oui, oui.
De français.
Insignifiant. Bon, je vous dirai de quoi il sera question au fur et à mesure, mais entre autres, il y a un service d'audio description que vous connaissez peut-être. Si vous avez travaillé avec le crime, la compagnie a racheté le crime, et non seulement la compagnie a racheté, ben pas le crime, mais le prototype, mais en plus, ils l'ont commercialisé et ils ont même des clients. On y revient. Oui, c'est la compagnie Elocutio pour Techno Leads. Stéphane, est-ce que le E est important, Stéphane?
Non, c'est mon initial.
OK, ben je le dis une fois,
Stéphane Éric.
Brisebois. Ah, OK, OK. Ce n'est pas le nom de famille, mais un autre prénom.
Voilà.
OK. Techno Leads, c'est le nom de la compagnie, et Elocutio, c'est le nom du logiciel ou de la technologie?
C'est le nom du service, en fait.
Ah, OK. Mm-hmm. OK, vous êtes président, donc, du service Techno Lead Inc. Parlez-moi du service, parce que moi, je croyais que Elocutio, c'était finalement, bon, le logiciel voix de synthèse qui permettait de sauver du temps lorsqu'on voulait offrir un produit en audio description. Mais c'est plus que ça, là. Si c'est un service et non juste un logiciel.
En fait, voilà. Pour corriger ce que vous disiez d'entrée de jeu, non, on n'a pas acheté le crime. Nous avons tout simplement obtenu une licence d'utilisation de leur technologie qu'ils ont développée au fil des années, que je crois que vous connaissez très bien déjà et que votre auditoire utilise, notamment avec la banque de films qu'il y a à la BNQ. Ça a été produit par le centre de recherche dans un contexte justement de recherche appliquée.
Nous, personnellement, j'ai jeté l'éponge, mais je pense que c'est mon ordi qui est trop vieux.
Ah, peut-être.
Après 3 fois où le CRIR et moi, le CRIR et moi, on travaillait ensemble, j'étais gêné d'y rappeler. Alors j'ai dit, bon, mais un homme a sa fierté, j'ai juste décidé de m'en passer.
Et sa patience, peut-être. Donc nous avons repris cette technologie de base et on l'a adaptée aux besoins spécifiques des grands diffuseurs. Et notre ambition n'est pas de faire de l'interactif comme ce que vous faites lorsque vous empruntez des CD à la BNQ, mais c'est plutôt de servir le monde des grands diffuseurs qui doivent, depuis le mois de septembre, offrir un plus grand pourcentage de contenu audio décrit.
Ouais. Les avantages, mis à part le temps sauvé, parce qu'on n'utilise plus de narrateur, est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, j'imagine que c'est moins coûteux. Parce qu'on n'utilise plus de narrateur?
En fait, c'est tout à fait vrai. On sauve surtout du temps. La réalité, c'est que avec justement les grands volumes qui sont arrivés vers les grands diffuseurs qui doivent maintenant produire de plus en plus d'audiodescription, je pense qu'ils ont constaté que faire les choses comme c'était fait dans le passé, ce n'est plus financièrement viable pour eux. Donc, à tout choisir, nous, chez Technolise, on a choisi la technologie pour pouvoir mettre l'emphase sur les narrations, investir davantage en amont sur la production des scripts qui sont réalisés par des auteurs très qualifiés, je dirais. En fait, les gens chez nous ont une maîtrise ou un doctorat.
Oui, je remarque dans les communiqués de presse que vous mettez beaucoup d'emphase sur la qualification des gens, des scripteurs ou scriptrices.
Exactement. Et ce que l'outil nous permet de faire, Luc, c'est justement de se concentrer sur ce travail de rédaction plutôt que de s'enfarger sur des contraintes du type « est-ce qu'on va chevaucher le dialogue? Est-ce qu'on va écraser des bruits de fond, des bruits d'ambiance qui sont essentiels pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe? »
Mais il faut quand même l'évaluer, j'imagine, parce que si la phrase est trop longue, que ce soit une voix de synthèse ou un individu qui l'a dit, on a le même problème. Donc, il faut évaluer le temps qu'on a.
Eh bien, voilà l'avantage qu'on a comparativement aux méthodes traditionnelles, c'est que nos auteurs peuvent valider en temps réel si ça rentre ou si ça ne rentre pas.
Okay.
Et donc, on ne perd pas de temps. On ne prend pas non plus le risque d'avoir un débordement et d'être obligé, en enregistrement studio, ce qu'on ne fait pas chez nous, de devoir reprendre, corriger, changer, modifier.
Qui seraient ou qui sont vos clients? Bon, j'ai lu Bell Media.
Mm-hmm.
Donc, c'est quoi? C'est chaîne spécialisée surtout pour le moment. Est-ce que V appartient à Bell? Oui, hein?
C'est pas encore complété.
OK, on, OK. Puis, de toute façon, V ont une exemption là, au niveau de l'audiodescription.
Si j'imagine que ça va changer.
Ouais,
parce
ouais,
que maintenant, partie prenante d'un grand groupe, ils vont être astreints aux mêmes conditions.
Mais mis à part Bell Media, là, vous cherchez justement les grands diffuseurs comme ça?
C'est ça. On a approché un paquet de grands diffuseurs. Les cycles de vente sont longs. Certains ont des processus très formels de requête de proposition. Ils font des choix qu'ils vont garder pour un an ou deux. Donc, dans certains cas, ben, on a tenté notre chance, ça n'a pas fonctionné. Il y en a d'autres, ça fonctionne. Et je vous avoue que notre ambition aussi, c'est d'aller plus loin. C'est d'aller en bilingue parce qu'on a des auteurs qui parlent anglais et français. On a des gens de background tout à fait complémentaire.
Donc, un marché international, tant français qu'anglais.
Ben, national d'abord et avant tout. On va essayer de faire notre place.
Parce que j'ai lu que vous mettiez de l'avant l'aspect français d'une de vos personnes là, dans l'équipe.
Mm-hmm.
Alors, je me dis, peut-être qu'ils veulent justement percer en France également avec cette technologie.
On a des discussions avec des gens qui ont une présence très forte là-bas. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire du copier-coller. C'est-à-dire que le travail de nos auteurs soit réutilisé en plusieurs langues. Parce que l'effort de préparer, d'analyser une vidéo, de regarder ce qui est digne de mention, de trouver la bonne formule, c'est beaucoup plus efficace de le faire une fois et après ça, de le traduire en multi langues. Et notre ambition, ben, c'est d'aller vers les plateformes de diffusion multilingues qui vont nécessiter d'avoir à la fois au même moment de l'espagnol, du portugais, de l'italien, etc.
En même temps, Stéphane, si je regarde, supposons, bon cop, bad cop, qui peut être fait à l'international ou à tout le moins bilingue, j'ai quand même envie que le texte en audiodescription soit québécois et non, disons, une langue française internationale alors que tout le monde, eux, parle en québécois. Alors, si on fait du copier-coller, ça va devenir difficile de mettre des idiomes ou des régionalismes ou...
C'est le même débat que pour le doublage. Je suis tout à fait d'accord avec vous que quelque chose de la forme d'un bon good cop, bad cop, bon cop, bad cop, dans ce cas-ci, c'est un produit un peu plus spécifique, un peu plus local. Changeons de perspective. Si on est en Californie et que l'on diffuse une émission, une série qui doit être distribuée dans un vaste nombre de pays dans différentes langues. Dans ce cas-ci, l'audiodescription qui a été composée avec soin par des auteurs ici pourrait trouver sa place dans d'autres marchés, dans les marchés hispanophones, dans les marchés portugais, etc.
Moi, je trouve que la plus-value de Elocutio, c'est surtout, en tout cas en ce qui me concerne, sur les plateformes, sur les DVD que l'on n'utilise plus, où on peut arrêter la trame, retourner pour savoir c'est qui déjà Bobby, qu'est-ce qu'il a l'air Bobby. Donc, ce logiciel-là nous permet de faire ça et même de faire des vidéos, des descriptions allongées. Si on n'a pas le temps, on peut arrêter la trame. Je trouve que le côté que l'on perd avec l'émotivité de la personne, on le gagne avec la prolifération de descriptions. Est-ce que vous allez approcher des plateformes, que ce soit Tout.tv, que ce soit Illico, que ce soit Netflix en français? Ou parce que ça, là, je trouve que votre service, là, il se démarque.
Et bien là, justement, je vais devoir corriger votre perception.
Allez-y.
Luc. La technologie du centre de recherche que l'on a transférée chez nous Ce n'est pas celle qui est de la vidéo description étendue.
Okay.
Et donc, notre offre de service aujourd'hui, elle est limitée dans le temps.
Pourquoi, vous ne l'avez pas acheté, celle-là?
Pas encore. L'option est ouverte. Okay. Mais avant tout, ce qu'on cherche à servir comme clientèle, ce sont les diffuseurs qui vont diffuser un produit de 22 minutes en 22 minutes. Uh-huh. Et dans ce cas-là, on est capable de faire ce boulot-là de manière beaucoup plus efficace tout en garantissant la qualité. Ce dont vous faites part, c'est une éventualité peut-être pour le futur.
Ouais.
Mais là, intervient d'autres éléments, et c'est ce que vous disiez d'entrée de jeu. Ça prend, en bon français, un player pour pouvoir suspendre la diffusion du média le temps d'avoir cette vidéo description augmentée. On n'est pas là dans notre plan d'affaires.
OK. Je regarde tout ça. Il y a des nouveaux standards en termes de quantité proposés par le CRTC. Est-ce qu'il y a des standards de qualité dans cette demande du CRTC?
À ce que je sache, non.
Non, c'est ce que je pensais.
C'est une auto-réglementation, je dirais, de l'industrie. Moi, comme chef d'entreprise qui offre ce type de service, le souci que j'ai, c'est le suivant. C'est que depuis septembre, ce qu'on a ressenti clairement avec ces volumes à la hausse, c'est une restriction des budgets. C'est une volonté de faire le plus d'audiodescription, mais avec des moyens qui demeurent limités pour les diffuseurs. Et donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on on s'assure d'avoir une qualité? Le choix qu'on a fait, nous, chez Technolids, avec notre offre Eloquio, c'est justement d'investir sur le volet production de la narration. Et ça nous est possible de le faire parce que, comme vous le disiez, on sauve au niveau de l'effort requis pour produire la piste audio, puisqu'on a des voix de synthèse. Et là-dessus, pour nous, la priorité demeure non pas d'atteindre les minimums et les attentes, je dirais, d'un grand diffuseur comme Bell Media, mais c'est de s'assurer que l'auditoire vit une expérience envoûtante.
Oui, sauf que j'ai vraiment peur et j'ai l'impression qu'on va passer en dessous de la table avec cette histoire-là. Je prends, ce matin, j'écoutais du Netflix et en américain et du Netflix français. En France, là, ils disent vraiment tout, même ils vont répéter si la personne est blonde, si la personne est musclée. Ils vont pas juste le dire une fois, puis là, tu dois t'en souvenir pour les 10 épisodes. En anglais, la firme américaine qui a fait ça, elle nous disait, ils la couvrent d'une couverture, on n'a jamais su la couleur de rien. Il n'y a jamais de couleur, il n'y a jamais de... Donc, c'est ça qui est dommage avec le manque de standards. Et là, ce qu'on souhaite, c'est que ça se passe entre les studios et les diffuseurs et le CRTC, puis nous, les auditeurs, qui ne sont pas vraiment consultés, sauf brièvement, tu sais, ben on peut pas vraiment dire « ça se passe, c'est bon ». Parce qu'on est obligé de dire oh, « on est tellement chanceux, on n'avait pas avant, donc ça, c'est mieux que rien ». Le problème, c'est que ça va être minimaliste pendant 30 ans. Une fois que c'est fait, ils vont pas le refaire dans 5 ans pour mieux le faire.
La chance qu'on a de notre côté, c'est que la technologie qui nous vient du centre de recherche nous vient avec le savoir-faire qui a été développé pendant 7 ans.
Ouais.
Et il y a eu beaucoup de rétroaction qui est venue d'organismes comme l'Institut national canadien pour les aveugles, l'Institut Nazareth Louis Braille, le regroupement des aveugles.
C'est vrai que dans votre cas, c'est différent.
Et dans ce cas-ci, on est parti de cette base-là, une base très solide qui a été faite par l'équipe de recherche, et on a rajouté autant que possible des textures et une signature qui est la nôtre. Notre ambition, étant donné qu'on a cet outil extraordinaire qui nous permet de voir où est-ce qu'on peut faire une narration, eh bien, on s'assure de rencontrer ces minimums-là, mais on essaie d'en donner plus.
Oui, oui. Mais justement, parlant de donner plus, vous reviendrez nous voir quand vous aurez acheté la vidéo de description allongée, Stéphane et Brisebois, président de service Technolids Inc. Merci Stéphane.
Ça sera un grand plaisir.
Chaque jour est un voyage au bout du monde, voyage qui recommence à chaque jour, si loin qu'on puisse aller, si creux qu'on puisse tomber, rien n'est gagné ni même perdu, chaque jour unique, après hier, avant demain, sans pitié ni vengeance. Oh, yeah. Oh, yeah. chaque jour, ce fou de qui embarque, de qui se meurt ou se dessine. Chaque jour se lève et comme corvée trimballe tout ce qui existe. Le jour du riche, le jour du pauvre, le jour des rides, le jour des larmes et des berceaux. Le jour à même lui-même dessine un monde égal pour tous. Chaque jour se vit au jour le jour et s'accumule pour toute une vie. Jour après jour dans le silence, il pousse l'éveil vers le sommeil. Qui s'éternise ou soit trop court, qui soit souhaité ou redouté. Le jour se mêle à tout désir sans croire aux hommes. La seule issue ou contre-jour pour qui se veut plus que chaque jour est d'agir tel que même hier soit aujourd'hui.
Madame Jourdouin, il va falloir nous donner une chance parce que celle-ci, c'est Chaque jour. Mais je crois que je voulais écouter Et Chaque jour, qui est aussi de Geneviève Jourdouin, mais c'était beau quand même, vraiment. C'était, et c'est du même album, je pense, en plus. C'est ça, il y avait un thème. Bon, une agence de rencontres pour personnes avec limitations. Rencontre, amitié, amour. Elle est représentante de la région de Québec, Émilie Gingras, bonjour.
Bonjour, M. Fortin.
Ah, Luc, c'est parfait, Émilie.
Ah, bonjour, Luc.
Je me souviens d'une fois où Jeannette Bertrand avait dit, je me souviens plus à quelle émission, en tout cas, elle parlait de la sexualité, puis des personnes handicapées, puis là, elle avait laissé sous-entendre que les personnes handicapées, s'ils manquent de sexualité, faudrait les aider à être ensemble, puis tout ça. Puis, ça avait réagi dans le milieu parce qu'on se disait, ben voyons, c'est pas parce qu'on est nécessairement avec une limitation fonctionnelle qu'on doit nécessairement rencontrer quelqu'un avec une limitation fonctionnelle. Alors, avec ce préambule, je vous pose la question, pourquoi une agence de rencontre dite spécialisée?
Ben en fait, nous, on va être là pour un peu aider les gens avec, on va dire, une différence ou avec une incommodité. Si on se spécialise, on dit dans l'incommodité handicap. Donc, l'handicap peut englober les gens, on va dire, en fauteuil roulant, non-voyant, une surdité, une déficience intellectuelle légère, mais aussi incommodité. Ça peut être aussi une personne qui se relève d'un cancer, une personne qui vit avec de l'anxiété. C'est qu'en fait, nous, on essaie de faire que ces gens-là puissent, à travers des fois d'autres personnes, rencontrer, discuter, un peu de sortir de l'isolement et se comprendre un petit peu plus là, par rapport à leurs différences.
Quelqu'un qui a pas de char ou qui aime le métal, c'est pas une incommodité, ça, j'imagine?
Non.
Parce que ça doit pas être évident. En tout cas, ceux qui aiment le death metal, là, Ça ne doit pas être évident de trouver quelqu'un qui a le goût d'écouter ça.
C'est plus de la musique, oui, c'est ça. Ça va plus au niveau des goûts.
Vous vous adressez donc uniquement aux personnes en situation de handicap ou, si on veut, c'est ouvert à tous, mais en précisant que on souhaite la bienvenue aux personnes qui ont des limitations. Donc, c'est possible que dans les candidats-candidates, vous croisiez des personnes qui ont cette réalité-là.
Oui, tout à fait. Okay. Effectivement, c'est ouvert là à tous quand même. J'ai des gens, je vous dirais, qui prennent contact avec nous. En tout cas, moi, ça m'est arrivé récemment, une dame qui a travaillé dans le milieu hospitalier, qui disait, moi, écoutez, moi, je suis ouverte avec la différence, puis j'aimerais avoir des informations. Puis elle était très intéressée à l'inscription pour justement se lier d'amitié ou trouver un partenaire là, qui aurait un handicap ou une incommodité.
Le rôle que vous jouez dans cette aventure-là, parce qu'au départ, vous souhaitiez en démarrer une agence, là, vous vous êtes rendu compte qu'il y en a déjà une qui existe et vous avez décidé de la joindre, cette agence-là. Mais maintenant, quel rôle vous reste-t-il?
Bien, il me reste un très beau rôle. En fait, moi, je suis vraiment liée au développement, surtout pour le secteur de la région. Bien, en fait, le secteur et la région de Québec. Dans le fond, mon associée maintenant, Darlene, elle s'occupe de la section de Montréal et les environs. Moi, je suis plutôt maintenant officiellement porte-parole, en fait, celle qui va discuter un peu avec vous aujourd'hui, promouvoir aussi l'agence. Donc, c'est d'essayer de faire connaître puis rendre crédible là, l'agence de rencontre auprès des gens. Là. Donc, c'est vraiment mon rôle principal. C'est ça.
D'ailleurs, le nom de l'agence de rencontre Amitié Amour. Stéphanie, est-ce que la déficience était quelque chose auquel vous étiez habitué ou vous avez vu des gens et vous vous êtes dit « Ah, c'est vrai que moi, j'oublie ces gens-là. Il y en a sûrement d'autres qui oublient ces gens-là. Il faudrait qu'on pense à eux. »
Ben, Émilie, oui, et pas Stéphanie.
Ah, d'accord, merci, c'est bien.
Il n'y a pas de problème. Ben non, c'est ça. C'est qu'en fait, ben juste pour comprendre un peu votre question, vous voulez dire si...
Quels étaient vos antécédents avec le handicap?
OK. Ben en fait, moi, à la base, j'ai pas vraiment un lien très précis avec les handicaps, mis à part l'évolution et avec mon garçon. Donc, j'ai été touchée rapidement par la différence qu'il a. Il a le TSA. Mais à travers lui, puis à travers, je pense, l'apprentissage que j'ai par rapport à cette incommodité-là de mon fils, ben j'ai ouvert vraiment mes horizons. Je travaille beaucoup avec la clientèle et tout ça de différentes personnes. Puis, j'avais vraiment pour espoir, et dans mon cœur, je me disais, de trouver un moyen que ces gens-là aient une place intéressante, que je trouve que des fois, puis tu sais, vous avez vu des fois ou entendu une autre entrevue que j'avais donnée, je faisais le lien souvent avec une émission qui vient de Londres qui s'appelle Handicap amoureux. Et quand j'ai vu cette émission-là le plusieurs années, je me disais, wow, une maman d'un garçon autiste qui décide d'ouvrir une agence de rencontre pour permettre à son fils, justement, de lier des liens, de développer un peu plus facilement, peut-être, à rencontrer quelqu'un. Fait que c'est un peu comme ça, je vous dirais que mon idée est venue. C'est pas du jour au lendemain qu'on fait, oh wow, moi, je vais ouvrir cette agence-là. Et en faisant mes recherches, comme vous le disiez au départ, effectivement, j'ai fait la rencontre là, de Darlene Lévesque pour qui avait déjà entamé en rencontre adaptée. Fait que je me suis joint à elle avec mon idée aussi d'aider ou de soutenir là, ces gens-là.
Ce n'est pas une industrie ou un milieu que je connais beaucoup. J'entends parler de, bon, comme tout le monde, le Tinder, Plenty of Fish. Mais ces applications-là sont gratuites. Je crois savoir que vous demandez 150 $ pour s'inscrire. Pourquoi? Qu'est-ce qui coûte si cher pour moi qui ne connais pas ça? C'est peut-être le prix que ça vaut, je ne le sais pas.
Bien, en fait, nous, tu sais, les gens ont tendance à dire un site de rencontre, je vais aller m'inscrire, comme vous dites, mettons, mon classeur, ou pour pas faire de publicité là en particulier, mais il y a toujours des frais pour devenir membre sur un site. Mais nous, on est aussi une agence de rencontre, ce qui veut dire les gens ne vont pas, bon, je vais sur Rencontre adaptée, je m'inscris comme membre. Il y a un processus dans lequel nous, on est, dans le fond, il y a un processus pour adhérer à être membre. Dans le fond, les gens prennent contact avec nous, on leur offre un entretien qui, je vous dirais, soit par Skype ou par FaceTime pour qu'on prenne un contact physique avec le futur membre. Donc, nous, on fait une genre d'entrevue qui est souvent préparée à l'avance. On envoie une liste de questions. La personne qui veut devenir membre se prépare. Puis ensuite, on fait l'entrevue ensemble. Fait qu'on le voit, on discute, on voit un peu la personne. Tu sais, ça amène un côté très personnalisé. Puis quand la personne est devenue membre, à ce moment-là, il n'est pas laissé à l'abandon, puis c'est pas un système de chat entre membres. Nous, on reste là un peu comme entremettant, si vous voulez. Donc, les gens vont avoir accès au site, vont voir les profils des gens, puis c'est ouvert homme-femme, Montréal-Québec. Vous comprendrez, parce que le but de l'agence, c'est amour-amitié, c'est pas nécessairement, les gens sont pas tous là pour rencontrer un amoureux ou une amoureuse.
C'est sûr.
Donc, c'est ça. Et par la suite, quand la personne est inscrite, ben ils peuvent nous contacter en tout temps. Ce qui veut dire, ils nous écrivent, ils peuvent nous envoyer un petit message, dire, Émilie, par exemple, j'aimerais ça prendre contact avec telle ou telle personne. Nous, c'est là que notre rôle, on est important à ce moment-là parce que, comme on disait au départ, on accueille toutes sortes de clientèles, donc des fois des gens qui ont une déficience légère, autant que personnes qui se relèvent d'un cancer. Il peut arriver que ces deux personnes-là, ils veulent prendre contact ensemble, mais ne sachant pas l'incommodité ou l'handicap de l'autre, ben nous, on fait un peu le filtre là-dedans.
Oui.
Donc, c'est ça. Les gens nous demandent pour prendre contact avec quelqu'un et d'un commun accord, de chaque côté des membres, on pose la question, est-ce que tu veux rencontrer cette personne-là ou cette personne-là? Si ça convient, on fait l'échange de profil, on fait envoyer par courriel. Puis, si ça fonctionne pas, il n'y a pas d'intérêt, ben malheureusement, on doit annoncer à l'autre personne que ce ne sera pas un candidat qui voudrait échanger ou aller plus loin avec lui. Fait que voyez-vous un peu comment on agit. On est toujours là, derrière ou à côté des gens en accompagnement.
Justement, lorsque Christiane et moi discutions de rencontre amitié-amour, on se demandait au niveau de la protection, je ne sais pas si c'est votre rôle ou peut-être pas, mais on parle de gens avec un TSA, avec une déficience intellectuelle, donc il y a peut-être un risque d'abus ou de... Est-ce que vous déresponsabilisez ou vous vous responsabilisez à cet égard?
Ben, je dirais, c'est un et l'autre ou un sans l'autre, ce qui veut dire. C'est nous, lorsqu'on fait les inscriptions, il y a une personne qui a une déficience légère, souvent est accompagnée d'un ami, d'un parent. Il y a souvent, l'inscription se fait souvent avec quelqu'un qui accompagne ces gens-là. Mmh. Donc, nous, on a en note les coordonnées d'une personne ressource, si on a un besoin. Mais c'est sûr qu'au moment où il y a, comme je dis, où on filtre un peu les rencontres, c'est nous, on a vu les gens, on a fait l'entretien physiquement quand même via le Skype ou le FaceTime. On voit les personnes, souvent la personne qui accompagne est à côté. Donc, il y a une certaine quand même transparence au niveau des gens qui s'inscrivent, mais c'est sûr, comme n'importe quelle autre agence ou site, il y a une limite où nous, on ne peut pas agir. Du fait qu'au moment où les gens sont inscrits, nous, on a quand même... Notre rôle, c'est de les aider à rencontrer, mais s'ils se voient en dehors de l'agence, bien sûr que nous, on n'est pas là avec eux. Là.
Le chapitre de Québec est ouvert depuis quand?
Depuis la mi-août de cet été, en fait.
Donc, comme les gens sont, les journalistes sont tannés d'écrire sur la Saint-Valentin, ils ne savent plus sur quoi écrire, c'est certain que vous allez avoir plusieurs demandes d'entrevue d'ici quelques semaines. On vous le souhaite, en tout cas. Émilie Gingras, qui est représentante dans la région de Québec et les environs, donc, d'une agence, en fait, l'agence Rencontre, Amitié, Amour. Lâchez pas votre sourire, Émilie.
Merci à vous.
Jean-Sébastien a trouvé la différence entre avenue et rue. On va également faire une petite revue de presse avec Christiane après la pause.
Écoutez, Accès libre.
Monsieur Jean-Sébastien Laliberté, qui est à la régie et qui est également notre linguiste du moment. Je vous avais demandé de me dire la différence entre avenue et rue, parce que quand je m'en venais, j'écoutais mon GPS et il y avait des avenues est-ouest, des avenues nord-sud, il y avait des rues, et je comprenais pas pourquoi l'un... La nuance. Est-ce qu'il y en a une?
Ben oui et non. J'ai trouvé tout ça sur le site de toponymie du gouvernement du Québec, qui ont un merveilleux dépliant d'une trentaine de pages.
Et monsieur, t'appelles ça un dépliant?
C'est trop mince pour être un livre, je crois, mais toutes les définitions à savoir qu'est-ce qu'une rue, qu'est-ce qu'une allée, une côte, un boulevard, une avenue. Et avenue, dans le cas qui nous intéresse, on va y aller avec les définitions numéro 2.
Okay.
Et moi, ce matin, en me levant, j'avais aucune idée que j'étais pour apprendre aux gens d'où vient ce...
Ça me fait plaisir.
Voie de communication urbaine qui, dans un plan en damier, est située dans un axe perpendiculaire à celui d'une rue. Dans un plan en damier, généralement, les avenues sont orientées dans la direction nord-sud. Plus ou moins 45 degrés est accepté de différence. On est dans le contexte nord-américain et souvent, donc, ils vont être numérotés avec des chiffres, tandis que les rues vont être dans l'autre sens. Là, à savoir pourquoi des fois il y a dérogation, il faut demander littéralement à l'urbaniste.
Oh zut!
Oui.
Mais bel effort, mais ça répond pas à ma question. Pourquoi il y a une avenue Laurier-Est, avenue Villeneuve, avenue Marianne, avenue Rachel?
Ben la question est mal formulée, Luc.
Ah, bon. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Julie Thériault, j'espère avoir de meilleures questions pour vous. Vous êtes coordonnatrice clinique en milieu résidentiel au CIUS Mauricie Centre du Québec et formatrice parce que Christiane et moi, ça fait longtemps qu'on cherche à savoir comment les forces policières, lorsqu'ils doivent intervenir, avec que ce soit des personnes sourdes, que ce soit des personnes avec un TSA, avec bipolarité ou avec une déficience intellectuelle, comment font-ils? Et Christiane a fait moult appels et soit qu'il n'y avait rien ou l'ASQ, le SPVM, je pense qu'elle a même appelé au SPGM, personne n'a de réponse. Mais là, vous, vous arrivez avec une superbe réalité puisqu'il y a eu formation et les forces policières de la SQ dans votre coin sont habilitées à répondre à ces questions-là.
Vraiment, on a joint nos efforts là pour être capable d'avoir une approche bien particulière pour notre clientèle qui a des troubles graves du comportement. Donc,
comment est née la collaboration entre le CIUS, Mauricie, Centre du Québec et la Sûreté?
Ça découle d'un événement qui est arrivé durant l'été pour un de nos usagers. Donc, il y avait eu des répercussions dans la communauté et il y avait eu beaucoup d'impact négatif par rapport pour cet usager-là et pour les membres autour. Fait qu'on sait comment qu'on pourrait travailler de concert pour être capable justement de mieux intervenir pour cet usager-là qui garde une image très négative de la Sûreté du Québec et à la fois pour la Sûreté de voir qu'est-ce que je fais avec cet usager-là quand il est en crise. Fait que c'est un projet qui s'est fait en deux temps. D'abord par une désensibilisation pour l'usager directement et ça a permis d'ouvrir la porte à des activités de sensibilisation pour tous les patrouilleurs de la Sûreté du Québec de Victoriaville.
Mais justement, puisqu'il s'agit de la SQ, est-ce qu'on peut présumer que Victo n'est que le premier pas d'une série en domino qui va faire que la province au complet verra ses agents formés?
Bien, nous, en fait, on a pris la porte qui nous était ouverte.
Ouais.
Donc, je vous avoue que le lieutenant Côté, là, qui nous a ouvert la porte grand les bras, on a pu travailler avec les collaborateurs directement, là, leurs sergents à eux, qui ont été très, très réceptifs à notre demande, à notre proposition, et on l'a construit ensemble. Est-ce que c'est applicable pour d'autres régions? Assurément. Il y a des discussions pour Trois-Rivières. On s'est fait interpeller aussi pour la Montérégie. Fait que je pense
tant mieux.
Que, oui, c'est quelque chose qui peut se duplier là très, très facilement. Je pense que ça demande de s'asseoir ensemble, de discuter ouvertement de nos réalités puis de nos rôles respectifs aussi. Je pense que c'est ce qui fait en sorte que ça peut bien s'amorcer là, pour Victoriaville.
Bon, c'est peut-être évident pour quelques-uns d'entre nous, mais quand même, peut-être ça vaut la peine de donner des exemples ou d'expliquer qu'est-ce qui fait qu'une intervention pourrait dérailler.
Bien, oui, tout à fait. En fait, pour ça, on évoque la particularité de la clientèle. Nous, on héberge des gens qui ont un trouble grave du comportement, donc qui ne sont pas stables, sont dans des résidences à assistance continue, ou qu'on leur apporte le soutien nécessaire par du personnel qui est formé par l'organisation. Donc, ils sont là 24 heures, 7 jours pour stabiliser la crise comportementale. Mais ces gens-là, au-delà de la déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme, et du trouble de comportement présente un bon nombre d'autres de difficultés, que ce soit au niveau de la santé physique, que ce soit des atteintes neurologiques, des problèmes de santé mentale, un trouble de communication, fait que ça vient s'ajouter aux difficultés puis aux défis pour les équipes, mais pour tous les autres acteurs dans la communauté là, d'intervenir auprès d'eux, qu'ils soient bien compris et à la fois en même temps qu'il y ait les services qu'il leur faut. Donc, c'est sûr qu'on a une clientèle qui est quand même avec plusieurs comorbidités, là, si on veut. Donc, on trouvait ça vraiment intéressant, notamment de travailler particulièrement lors des activités de sensibilisation sur les particularités sensorielles de nos usagers. On disait déjà ça, c'est un élément que s'il gagne à être connu, on comprend un peu mieux. Donc, on ajuste plus concrètement notre intervention auprès d'eux par la suite parce qu'on comprend qu'est-ce qu'on leur fait vivre pour ces usagers-là.
Pour le moment, il y a eu quoi? Une formation avec...
Il y en a eu cinq.
Cinq, mais je veux dire, c'est la même série. C'est comme une série de cinq formations, mais de la même série. En fait, je pose la question parce que je me disais, si vous voulez ajouter, ajuster, modifier le contenu, comment ça pourrait se passer et comment se forme une formation, en fait. Qu'est-ce qui est contenu dans la formation? On va le dire comme ça.
OK. Bien, en fait, oui, c'est la même présentation qui a été faite 5 fois, okay, d'une durée de 45 minutes. Le but de la formation, c'est d'être capable, d'expliquer très sommairement nos services, juste pour dire dans ce CIUSSS-là, nous, on est où? De quelle direction qu'on relève, comment ça fonctionne, nos services, juste pour déjà mettre au parfum pour savoir un peu mieux nos réalités. Mais le cœur, c'est de comprendre les particularités, dans le fond, de la clientèle. Fait qu'on le fait vivre aux patrouilleurs une immersion sensorielle. Ce qui veut dire que concrètement, au-delà de leur donner le contenu théorique, on les plonge dans une activité qui sont sollicités de tous les sens, de tous les stimuli possibles. Donc, que ça soit pour le toucher, la vue, les odeurs. Ce qu'on veut, c'est justement les mettre dans une situation, ce que nos usagers, eux, qui n'ont pas nécessairement développé des stratégies d'évitement de ces stimuli-là, qui reçoivent ça comme des agressions.
Donc, ça se passe sous forme de jeu de rôle?
En fait, c'est qu'on y va avec concrètement, mettons, on apporte des contenants, il y a des gens qui passent autour des patrouilleurs, il y a des contenants d'odeurs différentes, là, du vinaigre, des choses comme ça, qui font ça que ça fait réagir. On met des lunettes spéciales pour jouer un peu sur la vue.
Okay.
Des gens qui ont des vues plus en tunnel, là, si on peut dire. Mm-hmm. Donc, on les met dans ce contexte-là et on leur lit une dictée qui ont des questions à répondre.
Ça va pour comprendre un peu ce que peut vivre la personne, mais en même temps, moi, ce qui m'intrigue, c'est comment savoir comment réagir quand je peux peut-être avoir peur. Exemple, ce qui avait initié cette réflexion-là entre Christiane et moi, c'était une personne sourde aux États-Unis qui devait parler avec ses mains. Et malheureusement, on l'avait menotté. Alors, c'est ben Moses. Donc, est-ce que, j'imagine, vous formez les agents, les agentes, à savoir comment également intervenir?
Oui, bien, en fait, oui, on les forme pour l'intervention, mais on en discute beaucoup aussi sur c'est quoi les meilleures pratiques pour nos usagers, puis comment ça fait sens pour eux. Je pense que là, c'est une des clés qui est importante parce que, oui, on a parlé, mettons, de l'importance de s'armer quand qu'il y ait un leader d'intervention. Quand on appelle les policiers, c'est que nous, toutes nos indices de vulnérabilité puis toutes nos actions, là, on est rendu à eux. C'est comme notre point là qui dit qu'on est rendu à eux. Puis c'est quoi nos attentes face à eux quand ils arrivent? Quand ils arrivent, ça veut dire que l'usager est dans un état de désorganisation important et qu'on est susceptible d'avoir besoin de force, d'hospitalisation pour être capable de restabiliser sa situation,
Avec,
de parler de leader d'intervention. Fait qu'on a convenu avec eux comment ça allait se passer au moment où ils arrivent. Donc, d'avoir une personne, fait qu'on c'est l'intervenant en présence qui discute avec le policier pour être capable justement que ça fasse sens pour l'usager, pour diminuer le nombre d'acteurs. Et on s'est nommé des mots-clés pour chacun des usagers quand il y a des interventions rapides, de pouvoir dire, ben lui, mettons, n'aime pas ça se faire toucher.
Ouais.
Une question, une à la fois. Donc, actuellement, il n'est pas disponible. Fait qu'on essayait de pister pour chacun de nos usagers hébergés.
Ça va si, supposons, ça se passe chez vous. Mais si c'est quelqu'un sur la 16e avenue qui est en psychose et qui est rendu violent, c'est pas dit que la personne qui va faire le 911 va comprendre exactement ce qui se passe. Est-ce que le policier est quand même, par cette formation-là, habileté à intervenir correctement?
Bien, moi, je pense que la formation, elle a permis d'ouvrir qu'au-delà de notre clientèle, que c'est applicable pour d'autres clientèles dites vulnérables.
Mmh.
Dans le sens que, quand nous, on faisait la formation, il y avait un sergent Pouliot, qui faisait la généralisation pour dire, bien, écoutez, ça, c'est eux autres, mais l'ensemble des clientèles qui ne sont pas hébergées là, qui pourraient avoir des besoins similaires, bien, les mêmes besoins qu'on nomme sont pertinents.
Ouais.
Fait qu'il faisait le pont à chaque fois qu'on apportait des exemples pour s'assurer que pour les patrouilleurs, ça fasse sens aussi pour eux.
C'est ça.
Pour dire que indépendamment qu'ils soient hébergés dans ce milieu-là ou en communauté dans...
Oui, élargir
le milieu.
C'est ça.
Oui, voilà. Le but, c'était vraiment là, de généraliser le plus possible l'approche, mais par un acteur qui est d'autant plus crédible, qui, de leur côté, qui était capable de le normaliser avec leur activité du quotidien, les clientèles qu'ils voient au quotidien.
En tout cas, souhaitons que vraiment là, ça fasse tache d'huile, non seulement cette formation-là, mais surtout ce souci que les différents corps de police au Québec puissent être mieux habilités, mieux formés à intervenir auprès de ces gens-là, parce que ce serait gagnant-gagnant, je pense. Julie Thériault, qui est coordonnatrice clinique en milieu résidentiel au CIUS Mauricie Centre du Québec. Merci beaucoup, Julie.
Merci à vous.
Sans pantalon, sans oxygène. Changer de sexe, tu trappes et l'ivon. Maintenant, tu peux lui dire Irène. Chaque jour, un million d'enfants s'écrasent nus sur cette terre. Rampes se lèvent, font la chaîne, dansent en ligne jusqu'au cimetière. Clique sur le web, elle tape, je t'aime, qu'elle n'est pas gonflée au collagène. Qu'elle a horreur des OGM, que sa mère est végétarienne. L'écran répond My name is Ken, excuse my French, love you, je t'aime. W.com vient dans mon range, je t'écrirai des poèmes. Et moi perdu dans la ville, égaré seul dans la file. Sainte-Catherine et pile, je rap and read. Le squeegee sourit, lui dit merci. Le chauffeur lui fait un doigt d'honneur. Et tous les deux s'assassinent des yeux et se quittent dans le petit moteur. Et moi perdu dans la ville, échoué sur la mauvaise île. Sainte-Catherine et pire, je rap and read. Je rap and read.
Christiane Campagnat, Jean-Sébastien viennent mettre de l'huile sur le feu. Toi, tu le sais pas, là, mais on se pose la question, avenue et rue, puis là, il est en train de me dire que lui, il demeure sur un boulevard qui dure quoi? Qui est de la à peu près 400 mètres de long, en tout cas, qui n'a pas l'allure d'un boulevard du tout. Et pourtant, c'est un boulevard.
La question sera de savoir de qui relève. Est-ce que c'est provincial? Est-ce que chaque municipalité a le choix?
Ouais, on le sait pas. Justine, Dionne Simard, on vous oublie pas. Restez là, vous allez voir, Christiane est intéressante. Parce que Christiane nous fait toujours sa petite revue de presse.
Oui.
Elle débusque des textes qui peut-être auraient passé sous silence, surtout des textes provenant d'ailleurs.
Oui, ben là, je vais pas en ailleurs très loin, mais tous les textes que j'ai trouvés là-dessus étaient en anglais parce que ça se passe en Ontario. Puisque selon la loi, les entreprises ontariennes de 50 employés et plus ont à partir de maintenant un an pour se conformer aux règles d'accessibilité du web en vertu de la loi de 2005 sur l'accessibilité. Ils avaient 10 ans, donc, à partir du moment où la loi a été promulguée.
Puis en 2021, on va être rendu à 16.
Oui, en effet. Okay. Et en fait, je pense qu'ils ont jusqu'au 31 décembre 2020.
Ouais.
Et selon un expert interrogé par le site IT World Canada, on est loin du compte. Selon lui, de nombreuses entreprises ontariennes accusent un retard considérable Et c'est une erreur qui non seulement pourrait leur coûter des clients, ce qu'ils ont tendance à oublier souvent, mais ça pourrait aussi leur coûter beaucoup d'argent puisque les entreprises qui ne se conforment pas s'exposent au risque d'être signalées, ce qui pourrait entraîner une amende quotidienne pouvant atteindre 100 000 $
OK. Fait qu'on est, on est quand même loin de la grosse sanction, là. Ils encourent le risque d'être signalés, ce qui pourrait leur encourir jusqu'à...
Oui, autrement dit, il n'y a pas quelqu'un au gouvernement. Non, ils n'ont pas embauché des inspecteurs. Ils vont entendre qu'une personne en situation de handicap dénonce les sites. Mais selon M. Cart, il s'agit d'un manque de compréhension des problèmes qui est à l'origine du retard des entreprises. La plupart ne seront pas prêtes pour l'échéance, étant donné qu'elles ne se sont probablement pas familiarisées avec la loi sur l'accessibilité. Et leurs sites web et applications mobiles n'ont pas été conçus, codés, et écrit en tenant compte des besoins d'accessibilité. Ouais. On revient à l'éternel problème de ne pas l'avoir pensé en amont.
Ouais.
Exactement. Ouais. Et que le problème clé, que la plupart des entreprises ne comprennent pas que les personnes handicapées sont des utilisateurs du web et du mobile, certains avec l'aide de technologies d'assistance, d'autres sans, mais que les gens, comme tout le monde, veulent travailler, faire des achats, effectuer des transactions bancaires, voyager, profiter de divertissements. Mm-hmm. Et ce qui est courant, c'est que de nombreux propriétaires d'entreprises et de grandes organisations ne comprennent pas qu'un site web inaccessible est à l'origine du handicap et non l'inverse.
Ah, ben justement, j'expliquais la semaine passée, je faisais 4 classes de 5e année et on parlait de handicap versus situation de handicap. Et je leur disais, la situation de handicap, c'est parce que c'est la faute à quelqu'un. Puis là, les jeunes, c'est comme, ah, c'est bon ça.
Ben voilà, donc ça c'est pour... Il redit un peu la même chose plus loin, là, que la barrière n'appartient pas à l'individu, mais à l'entreprise.
Mmh, on comprend.
J'ai découvert récemment, j'ai ajouté là, à mes revues de presse régulières, le magazine Forbes, en fait son site web, qui a un chroniqueur régulier en situation de handicap.
Ah.
Et il s'est penché récemment sur la question des élections et des promesses des candidats à la présidentielle du côté, du moins du côté du Parti démocrate. Il commence en disant que malgré que j'ai lu un scepticisme naturel et puis beaucoup de déceptions venant du passé, il a cru remarquer que les candidats démocrates commencent à prendre les électeurs handicapés et la politique du handicap au sérieux. Il nomme notamment une annonce d'Elizabeth Warren. Il dit même ceux qui ont fait des annonces qui aujourd'hui, avec les standards de maintenant, sont considérés peut-être comme un petit peu minces, auraient été considérés notables il y a quelques années. Et selon lui, les principales attentes des personnes envers les candidats sont des politiques détaillées et concrètes, notamment en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé, des mesures qui favorisent le maintien à domicile, le soutien aux proches aidants, notamment la sécurité d'emploi, on doit souvent manquer parce qu'on est proche
aidant. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai.
Des transports accessibles, l'accès aux études supérieures, du soutien pour la santé mentale et pour contrer la crise des opioïdes. Parce que selon la loi américaine sur l'accessibilité, les problèmes de santé mentale
en font partie. OK.
Il dit aussi que les candidats doivent mettre tout en œuvre pour avoir des personnes en situation de handicap dans leurs organisations et notamment dans des positions où elles vont pouvoir influencer les politiques, le ton, le style du candidat. Et il dit aussi que toute personne handicapée devrait être en mesure de trouver des moyens accessibles de s'impliquer dans les campagnes. Ce qui m'a fait penser, je vais y revenir la semaine prochaine, à la question de l'accessibilité des caucus en Iowa. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que juste aller voter et retourner chez soi. Je vais revenir là-dessus la semaine prochaine.
Quel est le nom de ce chroniqueur avant de te laisser partir?
Il s'appelle, Andrew Perlang. Ouais. Et c'est sur le site du magazine Forbes.
Merci, Christiane. Ça va être intéressant de le suivre, ce monsieur-là, parce qu'il y a quand même une plateforme à grand tirage.
Oui.
Justine Dionne Simard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthopédagogue à l'Institut des troubles de l'apprentissage. J'ignorais l'existence de cet institut-là. On commence une petite série qu'on va faire comme ça, de façon aléatoire, à savoir les métiers pour l'intégration, l'inclusion. Et aujourd'hui, c'est l'orthopédagogue. Avec qui travaillez-vous d'abord, Justine?
Principalement, moi, je travaille avec des élèves avec des services individualisés, là, que les parents ils viennent à la clinique, puis qui réfèrent, auxquels on réfère un service d'une sorte de pédagogie. Puis aussi, je travaille dans les écoles. Des fois, l'Institut fait des partenariats avec des écoles puis des organismes pour offrir un service en orthopédagogie à des écoles qui n'ont pas d'orthopédagogue.
Alors concrètement, la tâche d'un ortho ou d'une ortho?
Dans le fond, la tâche d'un ortho, c'est principalement d'évaluer et d'intervenir auprès des élèves qui présentent des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'ordre neurologique qui perturbent leur apprentissage, puis donc leur cheminement scolaire. On évalue pour cibler sur quoi on doit intervenir. Puis après, on intervient en fonction de ce qui est considéré le plus efficace auprès de ces élèves-là, puis en fonction des difficultés que nos évaluations ont soulevées.
Pour connaître quelques orthopédagogues, on discutait un peu de ça et j'entendais autour de la table des gens qui disaient « Il y en a que tout ce qu'ils font, c'est prendre le devoir et refaire le devoir que la personne n'a peut-être pas comprise, que le professeur lui a donné. Il y en a d'autres qui vont essayer vraiment d'être créatifs, d'arriver avec une méthode. Donc, oui. Le champ est large dans la façon d'intervenir. »
Oui. Dans les dernières années, je pense qu'on se dirige de moins en moins vers une méthode qui est de prendre le devoir de la classe et le refaire en individuel dans un autre local, parce qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour que le service en orthopédagogie réalise vraiment des interventions individualisées selon les particularités des enfants, puis vraiment sous un modèle d'intervention qu'on appelle un modèle à palier. Là. Si l'élève ne réussit pas dans la classe des certaines tâches, ben on va aller faire des tâches supplémentaires et spécifiques en sous-groupe. Si ça ne marche pas en sous-groupe, on va y aller après ça avec des interventions plus individualisées. Mais c'est des choses que je pense qui arrivaient beaucoup avant. C'est vraiment pas ce qu'on nous forme à faire, okay. Évidemment. Mais
j'entends que vous avez déjà vu ça.
Moi, j'ai vu ça dans mon propre parcours scolaire à
okay.
moi.
Okay.
Mais dans les écoles, présentement... J'ai pas vu ça.
Justine,
Mais on va, oui.
Est-ce qu'il y a des spécialités, à savoir, supposons, bon, on va chercher le bac, je sais pas si c'est un bac en enseignement ou un bac en orthopédagogie maintenant, peut-être à l'époque, je pense que c'était un bac en enseignement puis on spécialisait la dernière année. Je pense aux personnes handicapées de la vue versus les personnes okay. qui ont de la dysphasie, c'est pas le même profil.
Non, c'est pas du tout le même profil. Avant, il y avait un bac en orthopédagogie, plus un bac en enseignement en adaptation scolaire.
Okay.
Le bac en orthopédagogie n'existe plus. Maintenant, c'est un bac en adaptation scolaire. Après, lorsque tu as un bac en adaptation scolaire, tu peux être orthopédagogue dans les écoles. Ça dit, quand tu as un bac en adaptation scolaire, tu es formé pour travailler avec autant les élèves qui ont des handicaps visuels, physiques, troubles de comportement, y compris les troubles d'apprentissage à lecture et mathématiques. Puis aujourd'hui, si tu veux vraiment être une orthopédagogue professionnelle, tu fais une maîtrise et la maîtrise se spécifie en mathématiques et le langage écrit. Tout ce qui est les handicaps, c'est sûr que physique, là, par exemple, c'est sûr que tu peux te spécialiser. Je sais que dans les régions, par exemple, vu qu'il n'y a pas d'école pour les handicaps visuels ou quoi que ce soit, mm-hmm. spécifiquement, ils sont intégrés dans les écoles. Puis certains orthopédagogues, c'est leur rôle ils sont formés aussi au sein des commissions scolaires par quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment spécialisé.
Donc, c'est
là-dedans.
Une formation supplémentaire pour ces gens-là.
Au sein de leur travail.
Oui.
Il y a pas. Si par exemple, une personne peut faire une maîtrise avec recherche là-dessus spécifiquement, puis peut vraiment s'auto-spécialiser, mais la formation en orthopédagogie parle pas vraiment des handicaps. Ils vont en parler, mais est vraiment spécifique avec les troubles d'apprentissage de l'écrit et des mathématiques.
Parlant de la maîtrise, c'est vrai qu'il y a des souhaits de plusieurs qu'à un moment donné, on puisse avoir un ordre professionnel pour obliger la maîtrise, pour obliger le perfectionnement?
Oui. J'ai entendu, puis je peux vraiment rien confirmer, mais qu'on serait proche d'être un ordre professionnel, okay. Sous peu, parce que, je veux dire, on travaille avec des enfants qui ont des troubles neurologiques ou qui ont des difficultés d'apprentissage, puis... une bonne ou une mauvaise intervention, selon ce qu'on fait, tu sais, si on fait une mauvaise intervention, ça a des impacts à long terme. C'est pas des impacts qui se voient visuellement, comme, mettons, dans un hôpital. Faire une mauvaise intervention avec quelqu'un, bien, ça peut découler à des graves problèmes de santé. Donc, c'est vraiment un domaine qui peut autant porter préjudice à la personne. Ouais. C'est pour ça qu'ils veulent bientôt, en tout cas, je l'espère parce que...
Qu'est-ce qui détermine si on est une association ou un ordre? Qui décide ça?
Si l'association décide de devenir un ordre, okay. il va avoir vraiment... on a déjà un code de déontologie, mais ça va être vraiment spécifié avec des lois. Puis, il va vraiment avoir un code plus serré, là, je pense.
Ouais. Justine, on va sûrement vous rappeler, puis peut-être même oui. la semaine prochaine, dépendamment, parce que j'aimerais vraiment, puis on n'a pas le temps aujourd'hui, là, l'émission se termine, mais
oui,
je voulais que l'on parle du défi entourant chaque personne avec qui vous intervenez, que ce soit l'élève, ensuite l'enseignant, parce qu'il y a des enseignants qui sont, disons, ouverts, il y en a d'autres qui n'aiment pas ça, le parent. Il y a tellement de parents qui veulent pas que leur enfant ait des services parce que pour eux, c'est la fierté, là, ça les heurte. Et finalement, le manque de ressources, évidemment qu'il fallait parler du manque de ressources. Alors, ça se peut bien que Christiane essaie de prendre rendez-vous avec vous pour qu'on poursuive ça.
Oui, aucun problème.
On a eu quand même une...
Bon,
tant mieux. Puis on a eu quand même une bonne introduction. On finira ça comme ça. Justine Dionne Simard. Merci beaucoup, Justine.
Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir.
Merci, Jean-Sébastien. Gros merci à Christiane également. À vous, je vous souhaite une bonne semaine. Dans 2 minutes, on parle de balado, Christiane et moi.